I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mise à mal. Le couple et autres formes de relations. Et alors, je le dis tout de suite, pour cet épisode, j'étais un petit peu bouleversé parce que j'étais en déplacement à Bruxelles, donc j'ai commencé de but en blanc sans exposer le cliché que je voulais qu'on mette à mal. Et en fait, il est double. Le premier, c'est que, évidemment, aucun homme ne veut se mettre en couple parce que c'est synonyme d'enfermement, mais c'est un cliché. La réalité est un petit peu plus nuancée. Mais le deuxième cliché que je voulais qu'on aborde, c'était que le couple, c'est un truc de has-been forcément toxique ou nocif. Ceci étant dit, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans Mise à Mal, je suis Flo et aujourd'hui on va parler du couple et autres formes de relations. Et pour ça je reçois deux podcasteuses et donc du coup c'est une grande première, c'est la première fois que je fais avec des podcasteuses. Donc je suis avec Asma et Meredith de Baleine sous Caillou, salut.
Coucou.
Ça va?
Oui, j'ai hyper contente.
Ouais, donc pour la petite histoire, ça fait près d'un an qu'on fomente cette collaboration. Ouais. Et ça a été repoussé deux fois pour des raisons personnelles, puis ensuite de Covid, je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, on y est enfin et je suis vraiment très content parce que c'est un sujet en plus qui me tient à cœur et je voulais en parler avec vous spécifiquement. Donc on y est et il s'est passé des choses sur nos rapports, nos relations, le couple et tout ça depuis un an. Donc on va un petit peu faire cette historique. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de vous la première fois qu'on vous rencontre? Et je vais donner immédiatement la parole à Meredith qui le prépare depuis un an, qui fait la danse du poulpe actuellement.
Bonjour, je m'appelle Meredith.
Bonjour Meredith.
Je suis très enthousiaste.
Je suis très enthousiaste, mais ça se voit direct. Et ensuite, le truc auquel les gens ne s'attendent pas, c'est que j'adore un certain type de film d'horreur, les slashers. Genre j'adore les slashers, c'est vraiment du petit lait, genre c'est un truc trop bien. Et les films de zombies aussi, j'adore les films de zombies.
Donc slasher c'est type Scream, c'est ça où tout le monde meurt.
C'est les trucs où tout le monde meurt et tout, et où souvent la dernière personne qui survit c'est une meuf brune, un peu garçon manqué, truc comme ça, genre c'est le trope de la Final Girl, il y a plein de trucs sociologiques, cinématographiques là-dessus, c'est hyper cool. Voilà, moi j'adore les slashers, c'est trop bien.
Ok, merci de m'avoir gardé le secret, ça fait un an que tu sais le truc, oui. Tu me le dis pas, donc bravo. Asma, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre?
C'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas de toi de l'extérieur. Et j'ai juste trouvé que je parle allemand. Voilà.
Okay.
Quand on me voit, on ne se dit pas « cette personne parle allemand », tu vois.
Ah,
je pense.
Sûr de ça.
Je pense.
Ok. Eh bien, attaquons. Et la première question sur laquelle je voudrais vous lancer, c'est savoir quel a été votre mode de relation à votre première relation et comment vous l'avez vécu à ce moment-là.
Oh, wow.
Pétard. Alors, excuse-moi, j'ai une question déjà, à la base. Qu'est-ce que t'entends par première relation? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils comptent pas vraiment les trucs qu'ils ont eu à l'adolescence, etc.
En vrai, la question est volontairement floue pour savoir où tu vas focaliser ton attention. Et pour vous laisser le temps de réfléchir, moi, je vais vous parler de ma première relation.
Ok, ouais,
merci.
Moi, j'ai été très clairement en couple. Alors, j'ai eu une relation avec une fille vers 14 ans, que je considère comme ma première relation de couple, quoi. Je tenais à elle, mais j'étais pas spécialement amoureux. Et j'avais moi envie de d'être charnel avec elle, n'est-ce pas? Mais je voulais aussi être amoureux, et donc du coup il y avait cette ambivalence de vouloir construire un truc à deux et en même temps de pas me jeter dans n'importe quelle relation comme ça. Bon, ça, cette relation s'est terminée du coup parce que en fait elle voulait pas attendre elle, et du coup elle m'a largué, comme quoi ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Et la première relation que j'ai eue après, c'était une relation très clairement de couple. Et c'est un modèle avec lequel j'ai vécu, le couple exclusif tel qu'on l'entend, j'ai vécu avec ce modèle-là pendant 15 ans. Et on pourra après parler des évolutions, donc je m'arrête là avec un petit cliffhanger. Mais en tout cas, moi, mon premier mode de relation était très clairement exclusif et j'ai commis des adultères dès mes premières relations. Donc il y avait déjà une faille dans ce modèle-là.
Qui s'est posé, quoi.
Ouais. Et vous?
Donc moi, ma première relation, enfin celle à partir de laquelle je compte, c'était entre mes 19 et mes 24 ans. C'était une relation exclusive qui a été très vite. On était plan cul pendant un mois. Et après, on s'est mis ensemble. Et on a vécu ensemble au bout de 3 mois. Et après, on a habité ensemble pendant le reste de la relation. Et vers les 4 ans, on s'est fiancés.
Mais non.
Si.
Ah ouais. Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
C'est aussi un truc auquel on s'attend pas de toi.
Avant, j'étais fiancée à un homme. Ouais. Et voilà. Et c'était une relation exclusive. Ça se passait pas bien du tout, mais ça a quand même duré 4 ans. Enfin, c'était pas parce que c'était exclusif que ça se passait pas bien, c'est juste que ça se passait pas bien.
Ok. Ouais. Et comment toi, tu percevais le couple à cette époque?
Ben oui, on était en couple. Je percevais le couple en mode. Je me souviens qu'en rompant avec lui, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, je voyais exactement vers où allait ma vie, de manière très très linéaire. J'étais en mode genre, on va se fiancer, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir une maison dans un autre pays, et on va faire ça et ça et ça. Donc c'était vraiment le truc très cis-hétéro classique.
Des cases à cocher, quoi.
C'était des cases à cocher et un ordre dans lequel faire les choses, ouais.
Et toi, tu te sentais bien vis-à-vis de ça? Ou tu réfléchissais peut-être même pas?
Oh, waouh. Mais je pense que c'est vers la quatrième année que j'ai commencé un peu à me dire « Est-ce que ça me convient ?» Parce que je me suis rendu compte que j'étais bisexuelle à ce moment-là. Lui, il a pas bien pris. Et j'étais là « On va avoir un problème ». Je me suis fait, on va avoir un problème. En fait, ça ne m'allait pas de me dire que déjà, c'était pas bien reçu et que j'allais rester là-dedans. Et je pense que ouais, vers la fin, je commençais un peu à me dire, genre, est-ce que ceci me convient? Est-ce que c'est OK pour moi de me dire que de mes 19 jusqu'à forever, en fait, je vais rester avec ce gars alors qu'en fait, j'ai un peu rien vécu dans la vie. Enfin, je veux dire, je faisais plus grand-chose, je sortais pas spécialement, je faisais pas la fête... Je voyageais pas beaucoup autrement qu'avec lui, etc. Je faisais plus vraiment de choses pour moi-même. En fait, je n'avais pas ma vie à moi, j'avais que notre vie à nous. Et j'avais pas ma vie à moi.
C'est important ce que tu as dit, de dire j'ai l'impression d'avoir rien vécu dans ma vie. Moi, j'ai eu ce truc-là, mais à répétition. Donc, parce que là, tu étais jeune, donc on peut se dire, ok, c'est que jeune. Moi, je l'ai encore eu récemment, enfin, tu vois, avant la trentaine, de me dire, non, je peux pas m'enterrer dans un couple parce qu'il faut que je vive des trucs et tout ça. Aujourd'hui, moi, il y a eu un chiffre de me dire, mais en fait, je peux vivre des trucs en couple aussi. Je sais pas pourquoi enfin, moi, j'avais compartimenté de genre, si je suis avec quelqu'un, c'est fini de vivre. Il y aura plus de nouvelles expériences, il y a plus d'ouverture, il y a plus de. Je sais pas pourquoi on a eu ce filtre-là dans la tête, quoi.
J'ai une pote qui dit qu'elle aime pas le terme couple libre que pour les couples qui sont en relation ouverte. Parce qu'elle dit, nous, on est en relation monogame, mais on est très libre. Ouais. On a chacun notre vie, on fait chacun des choses, etc. Et j'aime beaucoup cette vision du couple et je suis très d'accord avec elle parce que je trouve que c'est important quand t'es en couple, surtout en couple conventionnel, entre guillemets, fermé, quoi, hermétique, tupperware, comme tu veux, et genre de te dire, en fait, nous ne sommes pas un binôme. Genre, en fait, il y a trois personnes dans la relation. Il y a toi, il y a l'autre personne et il y a vous. L'association de vous.
Ouais, et c'est très juste, moi je suis d'accord avec ce truc de relation libre. Moi, ce qui me fait vriller, c'est le terme de relation ouverte, et je l'ai fait, donc on pourra en parler, et j'étais trop fier de dire, ouais, je suis dans une relation ouverte, parce que ça fait plus classe de dire ça qu'une relation fermée. Mais aujourd'hui, je me dis, si je suis dans une relation monogame de couple classique, exclusif, je suis dans une relation extrêmement ouverte, juste je suis très ouvert sur une personne. Et en fait, cette personne-là, pour moi, c'est un univers entier, et je suis ravi d'être ouvert sur elle. Mais vraiment, et je dis pas ça pour être poète, je me suis rendu compte de ça récemment, c'est pas du tout fermé et j'aurais jamais assez d'une vie pour connaître cette personne-là. Donc c'est très très ouvert comme relation.
Je suis hyper d'accord avec toi.
Mais on se tient tous la main. ok, et toi Asma, c'était quoi du coup ton premier mode de relation?
C'est un peu comme vous. En fait, en y réfléchissant, j'avais d'abord écrit ma première copine justement quand j'étais en Allemagne. En oubliant tout à fait qu'avant ça, j'étais sortie 3 semaines avec un mec. Pour les auditrices de Mise à Mal ne le savent sûrement pas, mais j'ai des relations avec des femmes. Mais j'ai essayé aussi ce modèle-là avant.
J'ai essayé.
J'avais quoi? 17 ans, je crois. 16 ou 17 ans.
T'avais...
17 ans, je pense.
T'avais 17.
Et en fait, c'est un mec que j'ai rencontré. Ça me fait très bizarre de dire ça. C'est un mec que j'ai rencontré à une soirée de Nouvel An. On s'est pécho, mais juste s'embrasser, quoi. Et on s'est revus après. Et là, on a. Enfin, voilà, je vais pas aller dans les détails, mais voilà. Et puis, on est sortis ensemble pendant 3 semaines. Et puis, après 3 semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'intéressait pas. Et j'étais là, il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et donc, je pense que j'ai jamais été vraiment dans les carcans, genre le couple hétéro, normal, on s'entend. Puisque juste après ça, j'ai en fait commencé directement à relationner avec des femmes. Donc forcément, le modèle du couple classique n'a jamais été le mien vraiment. Et après ça, bah, du coup, j'ai rencontré ma première copine quand j'étais en Allemagne et que j'avais 18 ans.
Ok. Voilà. Et tu t'es mis dans quel mode de relation?
Mais
avec
la
elle
couple aussi.
Ouais.
Mais c'est toujours, enfin, tu vois, quand c'est ta première copine, elle n'était pas out à ses parents. Enfin, forcément, c'est pas un schéma classique où tout roule forcément, malheureusement. Et donc, ouais, on était en couple, mais un peu caché. On était dans la même école. Moi, j'étais pas dans ma famille, j'étais dans ma famille d'accueil. Et donc, tu vois, c'était toujours un peu compliqué. Donc, il y a eu beaucoup de tensions, mais aussi beaucoup de bons moments. Et en fait, cette relation, elle s'est terminée bah, parce qu'on était obligés, parce que je suis partie après un an. Et donc, on a essayé un peu de tenir le truc pendant quelques mois, mais très vite, à 18 ans, t'as pas forcément la thune pour tout le temps faire des allers-retours jusque en Bavière. Et donc voilà, ça c'était ma première relation, mais qui m'a fait découvrir, enfin c'était la première pierre à l'édifice du reste, quoi.
Ouais, et c'est quoi du coup que t'as, enfin quelle conclusion t'as tirée de cette première expérience de couple, toi? Qu'est-ce qui t'a... Parce que du coup, avec un homme, tu t'es dit juste les hommes, c'est pas mon truc, mais t'as pas porté de conclusion sur le mode de relation, c'était juste...
Non,
avec un
je
homme,
pense
ça marche
que
pas.
À cette époque-là, je me posais pas du tout la question.
Ah ouais?
Enfin, une relation se finissait, pour moi, c'était une relation comme une autre en soi. Et non, je pense pas que j'ai tiré forcément des conclusions. En fait, sur les relations, j'ai tiré des conclusions très tard, il y a quoi, 2-3 ans.
Ok.
Où là, oui, j'ai pu un peu regarder en arrière. Et finalement, cette relation-là, pour moi, c'est une des relations les plus saines que j'ai eues et qui m'a le moins laissé de traces négatives, indélébiles, on va dire.
Ok. Bah, du coup, parfaite transition, parce que fast forward, on va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision des relations et qu'est-ce qui a changé depuis cette première relation? Et du coup, Asma, je te retends le bâton de parole. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu as fait ce bilan là, il y a 2-3 ans, et comment tu vois tes relations aujourd'hui?
Ben en fait, j'ai commencé, enfin après une relation qui s'était finie de manière très intense et pas forcément très cool, je me suis posé 2 secondes et je me suis dit putain, j'en peux plus en fait. Je réitère toujours les mêmes schémas de relation où ben je finis complètement lessivée à la fin de la relation en fait. Et je pense que je cherchais toujours des gens qui avaient genre une aura très grande, qui prenaient beaucoup de place, qui avaient l'air sûr d'elle de l'extérieur. Et au final, pour moi, un peu me reculer dans le truc, un peu me cacher derrière, un peu chercher une protection, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est des choses que j'ai dû analyser en me disant qu'est-ce que j'aimais chez ces personnes-là pour toujours retourner finalement en me disant à la fin d'une relation, non, c'est bon, j'ai compris, et quand même retourner là, quoi. Et je sais plus la question, c'était quoi?
La question, c'est ça, mais du coup, c'est déjà intéressant de voir que, en fait, t'as été épuisé, c'est ça? Genre, c'était une relation de trop, où tu t'es dit stop, je vais analyser. Et tu t'es posé pour voir quels étaient tes schémas à toi que tu répétais?
Ouais, c'est ça.
Okay.
Mais c'est hyper confrontant. Hein, tu vas chercher au-delà de toi-même, tu vas chercher dans tout ce qui t'a construit aussi, et pourquoi tu fais ça et d'où ça vient, etc. Donc c'est vraiment un énorme travail finalement. Ce que j'aimerais bien me dire, j'ai vécu mes relations sans me poser de questions et ça s'est fini et voilà, c'est la vie, quoi. Mais je pense que vu que ça m'a laissé vraiment beaucoup de traces, je pouvais pas faire autrement. Et c'est pas parce que j'ai commencé à déconstruire ça que j'ai pas réitéré le truc après. Ça, c'est un truc que ma psy m'a dit. Elle m'a dit... c'est pas parce que tu vas travailler là-dessus que tu vas pas pouvoir, enfin que tu vas pas recommettre une erreur entre guillemets après. Et c'est ce qui m'est arrivé, mais je pense que là j'ai vécu cette relation compliquée aussi, mais en étant suivie et à la fin en pouvant aussi analyser tout ce qui avait pas été.
Ouais.
Et donc là en fait j'ai mis en pratique tout ce que j'avais appris sur le terrain, on va dire.
Les experts.
Non, c'est ça. Et donc oui, c'était un autre... c'était dur aussi, hein, vraiment très dur. Mais voilà, je pense que je pourrais plus jamais relationner comme j'ai relationné avant.
Je pense que tu as dit un truc important. Tu disais à chaque fin de relation, je disais j'ai compris et tu retournes dans des schémas. Le danger de mon expérience, hein, c'est quand on commence à dire j'ai compris. C'est vraiment... moi, c'est un warning chez moi de me dire ah, mais j'ai compris, c'est comme ça. En fait,
mais j'ai compris tout seul, non? T'as pas compris en fait.
Pas compris en fait. T'as remarqué peut-être quelque chose, mais t'as vraiment pas compris. Et le fait que tu aies revécu quelque chose de dysfonctionnel ou de problématique, je sais pas comment on peut dire, en étant accompagné et... des fois, on a besoin d'un labo, en fait. Il y a des relations où, c'est triste à dire, on a besoin d'un labo, de voir in situ quel est le truc, et en étant accompagné, parce que des fois, c'est trop dur de dire, putain, ce pattern-là, je le connais, et qui était quelqu'un qui te dit va jusqu'au bout en fait, tu le vis. Et moi ce que je vis dans mes relations, c'est de voir, ok, j'ai compris des trucs, des peurs de l'attachement, des machins, ouais, des trucs, sauf quand tu le prends en pleine gueule et que tu perds tes moyens et que tu te mets à faire des crises d'angoisse à des trucs.
Non, c'est l'enfer.
Bah, c'est là où il faut que tu ailles. Et en fait, c'est peut-être la dernière fois. Mais tu as dit un autre truc important, c'est que tu es allé à la limite de l'insupportable. Et je pense qu'il faut en arriver à là, même si c'est dommage, et j'espère qu'on puisse faire autrement, mais moi, dans mon expérience, ça s'est confirmé aussi. De dire qu'à un moment, la balance, de dire je ne peux plus supporter ce truc-là, il faut que je change.
Ouais,
clairement. Moi, des fois, je m'en veux un peu de me dire j'aurais aimé réagir avant. Et je me demande si c'est possible, en fait.
Non.
Non ? Conclusion, Meredith,
je me souviens, Meryl, elle me disait tout le temps, c'est que t'as pas compris, en fait.
Oui, c'est ça parce que je vivais la même chose. Ouais. Hein, tu vois.
Ouais. Mais tu retournais quand même loin. Et en fait, un schéma que je répétais tout le temps, c'était de l'amour passionnel. La personne, tu la vois, et c'est le feu de Dieu, et c'est genre hyper intense pendant quelques mois, et en fait, tu vois rien. Genre, t'as un filtre rose sur les yeux, et des red flags, il y en a... Pour moi, je suis convaincue que les red flags qui vont survenir par la suite, ils sont là dès le début. Mais tu choisis cool. De ne pas les voir ou tu les trouves, tu dis bon, ça va, c'est pas pour une fois. Et en fait, au fur et à mesure du temps que les choses s'accumulent, etc. Et en fait, tu dis ah putain, je l'avais vu, je le savais, j'aurais dû réagir comme ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de perdre la personne ou je ne sais pas quoi. Enfin... Et ouais, pour moi, les red flags, ils sont là dès le début.
Ouais, et du coup, rouge sur rose, parce que tu avais un filtre rose et ça n'aide pas. Il y a un petit chat qui miaule.
Oui, il y a mon chat, je suis hyper désolée, à chaque fois elle fait ça. Je vais lui ouvrir et on va être tranquille.
Meredith, tu avais des trucs à dire là-dessus ?
En fait, Asma et moi, on a fait un long cheminement un peu ensemble, main dans la main. Donc, je vais beaucoup parler d'Asma, je pense, dans cet épisode, parce qu'elle était là.
En fait, c'est toi, ma relation.
Mais en vrai, pendant un moment, je me souviens, on était là en mode genre, c'est un peu toi, ma meuf, en fait, mais t'es pas ma meuf, quoi. Ouais, voilà.
Et, meuf platonique.
En fait, donc, quand je suis sortie de cette relation qui était très compliquée et qui était très passionnelle aussi, en fait, on avait des disputes, genre, vraiment affreuses, genre, on lançait des objets, on cassait des trucs. En fait, ça allait pas du tout, c'est vraiment un très gros problème. Bref. Et je suis sortie de là. Mais le truc, c'est que j'avais tellement eu l'habitude d'être en couple, je ne connaissais que ça depuis mes 19 ans. J'étais là, bon, ben, il faut que je me remette en couple, en fait. Et du coup, j'étais très à l'affût. J'étais à la fois en mode genre, il faut que je m'amuse, entre guillemets, que je fréquente plein de mecs, mais il faut vite que j'en trouve un avec qui me mettre. Et en fait, genre, j'avais énormément de crush. Genre, Asma, elle disait en rigolant genre, que j'avais un nouveau crush toutes les deux semaines. Mais c'est vrai.
Enfin,
c'était vrai. J'avais vraiment un nouveau crush toutes les deux semaines parce que mon attention se focalisait. Et puis, en fait, je passais à autre chose et tout, très vite. Au moindre truc qui coinçait un peu. Et en fait, je projetais énormément sur les gens. En fait, je faisais plus ça qu'autre chose. C'était vraiment de l'énorme projection. Et la projection, ça a été mon problème jusque genre 2019, quoi. Vraiment, c'était...
C'est quoi la projection, juste ? Comment toi, tu le définis ?
C'est qu'en fait, moi, depuis que je suis adolescente, j'ai une idée de à quoi ressemble une relation romantique.
Ouais.
Et c'était comme s'il y avait une espèce de silhouette sans visage et que j'essayais de coller un visage à chaque fois à cette silhouette et que j'étais « Et maintenant, le visage, c'est toi !» Et j'essayais de faire coller des gens à un idéal que je m'étais créé. Sauf qu'en fait, une relation amoureuse, ça se co-crée.
Ouais.
Et on la crée ensemble. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec ma copine, mais
plus, c'est pour plus tard.
C'est plus tard.
Tu as tenu 20 minutes.
j'ai tenu 20 minutes. Et
on s'était mis un petit défi de voir combien de temps Meredith allait mettre à mentionner sa copine.
voilà.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'a fait penser à un vieux Photoshop. Tu vois, genre, en fait, tu veux tellement un
vraiment.
Amoureux, une amoureuse que tu fais un vieux Photoshop tout dégueulasse.
C'était vraiment
ça. Maintenant, c'est ma vie. Mais c'est beau.
Ouais.
Tu te rends pas compte que tes skills sont vraiment trop bas.
Mais le truc, c'est qu'en fait, j'étais tellement douée en projection. Je suis une personne très rêveuse, etc., bourrée d'imagination, que du coup, j'arrivais à interpréter le moindre truc que la personne en face faisait. J'étais à, ok, tu m'aimes, en fait. Tu vas me le dire plus tard, mais en fait, tu m'aimes. Et puis aussi, j'entasse ce truc où des fois, avec le recul, t'es là, est-ce que c'était de l'infatuation ? Est-ce que...
Infatuation.
Non, ça n'existe pas en français.
J'ai signé du nez, ouais. Ça veut dire quoi ?
C'est genre, quand tu... C'est pas un sentiment amoureux, c'est plutôt genre... T'as tellement une image de la personne que tu t'es créée, que t'es amoureuse de l'image que t'as créée de la personne. Je faisais beaucoup ça. Et du coup, en fait, c'est très étrange parce que je sortais de ces trucs qui fonctionnaient pas avec ces mecs avec qui je finissais par être genre une espèce de plan cul, pas très officiel, machin, des trucs comme ça. Genre dévastée. Mais en fait, deux semaines après, j'étais en mode genre « Ok, next !»
C'est vrai que tu t'es toujours super vite remise des trucs.
Mais parce que j'arrivais à trouver un moyen créatif de m'en remettre. J'étais, je vais écrire des super poèmes, mon gars, tu vois. Et du coup, j'écrivais des super poèmes. J'étais, ok, trop bien. Et je sais pas, je...
Ouais.
Mais après un certain rythme, genre vraiment, pendant deux ans, c'était épuisant. C'était épuisant. Je ne vivais qu'à travers le prisme des mecs. Je n'existais qu'à travers ça. Je ne me valorisais qu'à travers ça. C'était hyper fatigant. Et aussi, j'avais ce truc hyper étrange où d'un côté, je voulais absolument me remettre en couple, mais de l'autre, je ne voulais pas parce que j'étais là en mode genre, mais en fait, là, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas été et je ne sais pas si j'y arriverai de nouveau. C'était vraiment très étrange. Et aussi, je me disais, est-ce que le problème de ma relation longue avec mon ex, c'était moi en relation ou est-ce que c'était l'association de lui et moi? Et le truc, c'est que vu que j'avais eu une seule relation, je ne savais pas dire comment moi, j'étais en relation officielle, quoi, entre guillemets. Et j'avais ce cycle. Et genre vraiment, Asma et moi, on était toutes les deux en train de mater nos cycles en se tenant la main. Moi, genre, ça va aller. Et on les répétait tout le temps. Et on savait qu'on était en train de le faire. Ouais. Et on était là, bon, ok, on sait qu'on n'a pas compris. Bon, ben voilà. Et
sur le moment, vous saviez que vous répétiez des...
Oui, on savait qu'on était en train de le faire.
Tu le sais au fond de toi.
On le savait.
Tu le sais.
En fait, on le savait avec un tout petit peu de recul, genre 2 semaines de recul.
Mais
tu vois.
Tu dis toujours, ah, ça va changer.
Voilà.
La personne va changer.
Ouais,
la relation va changer.
Je vais changer la personne.
Je vais changer la personne.
Ouais. Et en fait, du coup, à partir de 2019, ça allait un peu mieux. Mais j'avais toujours des relations pas vraiment officielles. Et du coup, j'ai testé un peu des nouvelles façons de relationner. Il y avait des fois où ça m'allait, cette idée d'ouverture, entre guillemets, de fréquenter plusieurs personnes. Mais même si c'était des gens dont j'étais pas amoureuse, ça coinçait toujours au bout d'un moment. J'aimais pas ce truc. Et aussi, je pense que j'essayais d'avoir des relations dites ouvertes pour me prouver un peu un truc, moi, là, je suis déconstruite en tant que grimée, j'ai pigé le truc, moi, je suis chill, moi, je suis cool. Et en fait, je suis pas moins féministe ou moins sympa ou je ne sais pas quoi, parce que je préfère être en relation monogame. C'est pas grave, en fait. Juste, moi, ça ne me va pas. J'ai pas envie de fréquenter d'autres gens. J'ai pas envie que la personne dont je suis amoureuse fréquente d'autres gens. Et voilà, en fait, c'est tout, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai un peu testé ça. Et en fait... en même temps, je faisais les mêmes schémas et je m'intéressais tout le temps à des gens avec qui je savais que ça allait pas marcher, quoi. Je savais que ça allait pas marcher. Après, je me pose plusieurs questions avec le recul. Est-ce que c'était parce que je m'acharnais à faire en sorte que ça fonctionne avec les hommes parce que je niais le fait que les femmes, enfin, en fait, les gens, peu importe leur genre, m'intéressaient aussi? Ou est-ce que j'étais juste pas prête, en fait, à me mettre dans un vrai truc? Donc ce schéma-là, je pige toujours pas exactement pourquoi je le faisais, mais je me souviens que j'avais le déclic de mon schéma tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je faisais Asma, j'ai compris. Je vais vers les gens pas dispo parce qu'en fait, je ne suis pas dispo émotionnellement. Oui. Et puis elle était là, ah oui, moi je crois que j'ai compris aussi. Et puis en fait, 2 semaines après, on était toutes les deux dans la même merde. Enfin voilà quoi.
Mon thérapeute m'avait dit, toute leçon non apprise te sera resservie.
Voilà.
Bah c'est tellement vrai.
Et c'est vraiment, vraiment vrai. Et il y a plein de trucs sur lesquels je voudrais rebondir déjà, oui, Meredith. Sur l'infatuation, je crois que ça existe en français parce que c'est un mot que j'ai déjà entendu.
Mais je me demande si on n'en a pas discuté toi et moi.
Ah, c'est peut-être
en fait
toi alors qui me l'a dit. Ok, bon, en tout cas, c'est intéressant cette idée de plaquer un fantasme sur quelqu'un. Je voudrais revenir sur un truc qui est que moi, j'ai longtemps cru que les conflits, c'était le signe précurseur de la fin. On n'est pas fait pour s'entendre, on s'engueule, du coup, c'est la merde. En réalité, et toutes mes relations ont changé depuis que j'ai compris ça, un conflit, c'est une bonne nouvelle s'il se résout, évidemment. Mais un conflit, c'est la confrontation de deux valeurs pour voir si on peut faire un compromis. Et c'est aussi la confrontation entre le réel et le fantasme. Et en fait, le moment où tu commences à te... Alors, conflit, non, peut-être conflit, c'est trop violent, mais la confrontation dans un couple est hyper importante.
Mais c'est la communication.
La communication, mais aussi confronter, c'est-à-dire confronter, vraiment se mettre front à front. Tu vois, il y a un truc un petit peu... faut aller au contact. Conflit, on entend la violence dedans, donc c'est peut-être pas la peine d'aller là-dessus. Mais le fait de rendre réel un peu des trucs, bah, poser ses limites, de voir celles qu'on peut accepter ou pas, ce moment de négociation, alors oui, ça peut mener à une brisure, et en même temps, si c'est pas la relation qui vous allait, c'est tant mieux, mais ça peut mener aussi à des compromis, et si les deux compromis vont, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Je voulais juste rappeler ça, parce que moi, j'ai longtemps abandonné mes relations à ce stade-là, qui est le stade d'après la passion, du coup, qui est en fait, moi aussi, j'étais très passionnel, parce que, on va, le fuego et tout, qui est en fait du fantasme pur, quoi. Tu obliges la personne, c'est très dictatorial, tu obliges la personne à répondre à ton fantasme, et dès que ça se passe plus bien, bah, c'est des conflits, et j'arrivais pas à dépasser ça. Et donc, ça m'amène au deuxième point, tu disais changer la personne. Ça, c'est un truc qui est hyper dur aussi à faire. Dès lors que vous pensez que vous avez besoin de changer quelqu'un, vous ne l'aimez pas. Je sais que je vais être un peu radical.
Non, j'aimais l'image des gens.
Oui, ouais, voilà. Enfin, comment tu aurais voulu qu'elle soit?
Oui, c'est
pour
ça.
Pour répondre à tes attentes.
Et c'est extrêmement violent. Et il y a quelque chose qu'on peut changer dans la vie, et il n'y en a qu'une seule, c'est soi-même. Donc, savoir si toi, la personne, elle est comme ça, est-ce que tu es prêt, toi, à changer pour accepter comme elle est? Et si la réponse est non, stop. Ou alors, parle-en et vois si la personne elle est OK de voir quelque chose avec toi, mais ne t'attends pas à la changer, quoi. Et je dis ça parce que je l'ai beaucoup fait et je pense que c'est encore un schéma que j'ai en moi.
Moi, je pense que tant que tu n'as pas travaillé sur toi, tu ne peux pas aller vers des gens qui te correspondent parce que tu vas aller chercher des gens qui vont un peu combler les failles ou les choses sur lesquelles tu n'as pas bossé. Ouais, qui vont te compléter ce que t'as pas. Par exemple, moi, j'allais vers les gens qui ont l'air d'avoir confiance en elles, parce que moi, clairement, j'avais pas confiance en moi, quoi. Et je pense que tant que tu travailles pas là-dessus, j'ai dû apprendre à comprendre ce que moi, quand j'étais toute seule, j'aimais bien faire, pour pas me dire, enfin, là, ça va au-delà des relations, ce problème-là, c'est où j'avais tout le temps besoin d'être quelque part avec quelqu'un et tout, et j'ai dû te bosser sur ça. Et je pense que bah, les relations, ça essayait de combler une partie de ce manque que j'avais jamais en fait appris à aller chercher et à me dire. Enfin, avec ma psy, j'ai fait des listes de ce que j'aimais bien faire toute seule. Et maintenant, c'est un truc qui est devenu automatique, quoi, mais qui n'était pas du tout inné chez moi, quoi.
Ouais.
Et je me suis souvent posé la question aussi, un peu bateau, de bah, quid du schéma que tu répètes de tes parents aussi.
Ouais.
Et en fait, je me rends compte que moi, le seul schéma de relation que j'ai jamais connu depuis que je suis petite, c'est un schéma conflictuel. Un schéma où ma mère a énormément accepté et s'est beaucoup mise en retrait et a beaucoup souffert, etc. Et j'ai l'impression qu'inconsciemment, je me suis mise aussi dans ce genre de relation parce que c'est tout ce que je connais et que c'est le genre de relation qui a une date de péremption et que oui, tu attends toujours ce moment où l'autre va se guérir lui-même ou que toi tu vas changer. Enfin, il y a vraiment plein de choses que je me suis rendu compte que j'ai répété inconsciemment en fait. Sauver l'autre, c'est quelque chose que ma mère n'a pas réussi à faire et que du coup je me suis peut-être donné la mission de réussir à le faire avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est des trucs assez deep en fait.
Je vais rebondir.
Oh là là, si, on est à trempe au pain.
Mais par rapport au fait de passer du temps avec toi-même, etc. T'habituer à te donner de l'importance,
ouais,
fait qu'après, quand t'es dans une relation amoureuse, tu continues à te donner de l'importance et à activement avoir du temps avec toi-même et tout, parce que ta relation avec toi-même est aussi importante que ta relation avec ta partenaire. Genre, par exemple, une fois, on a eu cette discussion avec ma copine, genre, j'étais de super mauvais poil et tout, elle m'a fait, mais tu sais, ça fait hyper longtemps que t'as pas passé un soir toute seule. Et j'ai fait, ah ouais. Et du coup, j'ai fait un soir toute seule. Et j'ai regardé les films et pris un bain. Et en fait, c'est super important de encore passer du temps avec toi-même, quoi. Genre, même quel que soit ton agenda, etc. Enfin, c'est méga important. Et aussi, un autre shift que j'ai eu relationnel, c'est qu'en fait, genre, pendant ces 4 ans et demi à avoir des galères, etc., machin, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrêtais pas de me dire « Ouais, on m'aime pas, on m'aime pas, on m'aime pas. » Mais en fait, si. On m'aime de ouf, ma famille m'aime de dingue, mes amis m'aiment énormément. En fait, c'est juste, non, je n'avais pas d'amour romantique, mais j'étais hyper aimée. Et en fait, du coup, ben, j'ai accordé plus d'importance dans une espèce d'échelle d'amour à l'amitié et à me dire, en fait, l'amour romantique n'est pas un but en soi. En fait, c'est juste genre, le bonheur.
Plutôt, il n'est pas au-dessus des autres, quoi.
Et il n'est pas au-dessus des autres, tu vois, genre... Il y a plein de choses dans la vie qui me donnent de l'amour. Et en fait, vraiment, à la fin de l'été, j'étais là, OK. Genre, j'avais compris deux trucs. J'avais compris que les mecs, il n'y avait pas que les mecs qui m'intéressaient et que du coup, j'étais plus ouverte à autre chose. Et aussi, j'étais en train de me dire, mais en fait, ma vie est hyper satisfaisante. J'ai une bonne relation avec moi-même maintenant. J'ai des super relations amicales, familiales, etc. Si ça se trouve, je serai plus jamais amoureuse et plus personne ne sera jamais amoureux ou amoureuse de moi. Et je serai peut-être plus jamais en relation romantique et c'est pas grave. Et littéralement, je me suis dit ça, ma gonze est arrivée en me disant « Hey, tu veux aller boire un verre ?» Elle est sortie d'un nuage de fumée, telle un ange loblon, et j'étais en mode genre « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»
Mais ça connecte directement à ce que disait Asma, c'est-à-dire que si tu pars du manque, tu vas aller que confirmer le manque ou essayer de le combler avec quelqu'un, donc faire Exactement. De la dépendance, c'est-à-dire le moment où ça s'arrache de toi, c'est encore pire, tu vois. Genre,
ouais. Horrible.
Parce qu'on passe en mode parasite à faire ça, genre viens, on fusionne un peu, et le jour où la personne s'arrache, c'était là, voilà. Putain, j'ai perdu une partie de moi, ça me manque encore plus qu'avant, et j'ai rien réglé. Quoi.
Faut voir en fait, enfin, il faut. Non, pas du tout. C'est juste moi, une des réalisations que j'ai eues avant même encore de la rencontrer, c'est que j'étais là. En fait, une relation amoureuse, c'est une cerise sur le gâteau.
Ouais.
C'est une plus-value, c'est un apport, c'est un bonus. C'est, voilà. Et c'était aussi un truc auquel j'avais réfléchi, parce que toutes ces relations qui n'avaient pas fonctionné, tous ces schémas que j'avais essayés, ces cycles, etc., m'ont au moins montré ce que je ne voulais pas pendant tout un temps. Et puis, ça m'a permis de voir ce que je voulais. Et ce que je voulais était très simple. Une cerise sur le gâteau. et en fait un coéquipière, quoi.
T'as dit un truc hyper important que j'ai pas fait pendant des années, qui était de savoir ce que tu veux. On sait très bien au bout d'un moment ce qu'on essaie d'éviter, soit chez soi, soit chez les autres, etc. Genre, c'est plus facile de remarquer, et le cerveau humain est fait pour ça, hein, de remarquer les trucs négatifs pour pouvoir les éviter, parce qu'on a vraiment un câblage, mais c'est biologique, à éviter la souffrance. C'est comme ça qu'on a pu évoluer, et on est les objets de l'évolution les plus stressés, parce qu'on est ceux qui avons emmagasiné le plus les signes négatifs pour les éviter. Ceux qui ne stressaient pas assez sont morts. Il faut vraiment le savoir que c'est biologique, en fait, on est le résultat.
Donc
mais
moi,
c'est
je vais vivre très longtemps avec mon anxiété.
J'osais pas le dire.
Quand ils pensent, c'est vraiment... Alors, je caricature, mais il y a vraiment des études qui montrent ça, qu'on est les primates les plus stressés. C'est pour ça qu'on a pu anticiper, c'est pour ça qu'on a pu apprendre nos erreurs et tout. Donc, le câblage est fait comme ça. On sait très bien éviter. On sait assez peu ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, avant, et je reviens à un truc que tu disais tout à l'heure, tu te faisais une idée romantique de ce que tu voulais, etc. Un truc un peu projeté. Mais même moi, le truc fantasmagorique, je ne me le faisais pas. Il y avait un truc de bah, je vais faire ma vie, mais je n'osais même pas toucher à la fantaisie de ce que ça pourrait être avec quelqu'un. Donc déjà, premier problème, même si ça peut être un souci d'être tout le temps fantasmé. Et récemment, de me dire, mais en fait, je tombe tout le temps en couple. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est des accidents, mais je suis tout le temps à me mettre en couple. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux être en couple, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je ne savais pas définir ce que je voulais.
En plus, je trouve, désolé, je te coupe, mais ok, tu as envie de te mettre en couple, mais quand tu es en couple, est-ce que tu es content d'être en couple? Enfin, bah... genre, tu te dis, je suis en couple, alors j'ai réussi ma quête.
Ouais.
Et quand, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un but. C'est plus un but que vraiment une envie profonde de rencontrer une personne qui va vraiment nous convenir et tout, que juste le fait d'être en couple.
Ouais.
Dire mais je suis en couple.
C'est ça qui a lâché chez moi, c'est que je me suis dit, j'ai fait un peu le même boulot que toi, Améry, de me dire, bon bah, j'arrête, je me pose, je vois ce que j'aime faire, comme toi, Asma, de faire des listes, tu vois, de qu'est-ce que j'aime faire, je vais le faire. Et il y a quelqu'un qui est survenu dans ce contexte-là. Et je me suis dit, oh putain, au début, j'ai laissé le temps de la découverte. Puis après, je me suis dit, bah, la vie est mieux avec elle, en fait. Donc, et ça a débloqué ces trucs de, bah, en fait, c'est mieux si je la mets dans l'image de ma vie plus tard, parce que je trouve ça mieux, quoi. Et c'est devenu un choix, c'est devenu une envie. Ouais. Et plus de juste forcer le couple, parce que aussi, j'avais peur d'être seul. Hein. Il y avait aussi ce truc-là, où on réagit en négatif, quoi. Ouais. Et juste, je reviens sur se donner de l'importance. Je pense qu'il y a de ça et il y a aussi à apprendre ses limites. Moi, j'ai récemment compris que je ne savais pas, mais vraiment encore aujourd'hui, donner mes limites. Je ne sais pas dire non et j'ai toujours peur que si je dis non, on va me rejeter, on va m'abandonner et machin. Donc, je suis en plein dedans. Mais avoir des limites, ce n'est pas négatif. Et je le dis parce que je l'ai compris très récemment et je le dis, j'ai compris intellectuellement, mais je ne sais toujours pas le faire. Je le pose si ça peut aider des gens aussi à comprendre ça.
Je pense qu'il y a une façon de mettre ses limites.
Oui.
Et que si c'est dans les conflits, les disputes, ça marche pas. Alors que si tu dis à la personne, ok, ça c'est ma limite, on peut en parler et tout, ce sera beaucoup mieux accueilli et justement ça pourra faire évoluer la relation. Et je pense qu'il faut pas toujours vouloir que la relation reste comme à son état du début et que de toute façon ça va évoluer et que de toute façon il va falloir mettre ses limites à un moment parce que tu peux pas vivre que via ça, quoi, c'est clair.
Et en vrai, j'ai l'impression qu'on n'apprécie pas le processus d'être ensemble. Tu vois exactement ce que tu viens de dire, bah en fait, on va apprendre à mettre des limites, on va apprendre à corriger, on va emmerder, et c'est jamais vraiment fini. Donc, bah, prépare-toi au chemin, en fait, où n'y va pas, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est pas facile d'être en couple. Enfin, c'est pas... je trouve. Il y a toujours des ajustements à faire au bout d'un moment. Je dis pas que ça vient dès les deux premières semaines, mais... je sais pas, moi j'ai un peu cette image peut-être désabusée du couple où je me dis en fait un couple qui va tout le temps bien c'est trop bizarre quoi.
Moi c'est plus facile que ce que j'imaginais. En fait je pense que c'est possible parce que j'ai passé 4 ans et demi à être célibataire et avoir des relations pas officielles etc. Ouais. Mais j'étais en train de me dire avant de la rencontrer que j'étais là, moi, genre oula mais enfin tu te souviens on discutait de ça, j'étais là genre mais tu m'imagines un couple un jour et tu me regardes et tu me dis non
trop
genre,
bizarre.
Ouais, trop bizarre quoi. Enfin. Et mais en fait, enfin voilà, je veux dire, j'ai de l'anxiété chronique. C'est un fait sur moi, c'est pas le principal, mais voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais genre, ok, enfin j'en ai parlé avec ma psy et tout. J'étais, c'est vrai que être en couple, ça va être un gros ajustement par rapport à mon anxiété, parce que c'est un gros changement. Et c'est vrai que c'est de la nouveauté et que du coup, il y a des configurations dans lesquelles on n'a pas encore été, qui par exemple me stressaient, des trucs à la con. Genre par exemple, moi, je bois pas quand je suis en soirée. Elle, oui, j'étais là, oui, mais si elle est bourrée, qu'en fait, quand elle est bourrée, ben, elle me saoule. Enfin, qu'est-ce que tu vois, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, toutes les micro-configurations qui me stressaient, mais à partir du moment où c'est déjà. Alors elle va rigoler quand elle écoute ça. À partir du moment où c'est déjà un peu pris la tête. Parce que moi, j'aime pas le conflit. Du coup, des fois, il y a un micro-truc. Moi, j'estime que c'était une dispute. Et elle, elle a... Bah non, on a discuté. On n'était pas d'accord. Et enfin, voilà. Enfin, mais à partir du moment où on a déjà eu quelques petits conflits... Enfin, conflits... Je sais même pas quel mot mettre. Enfin, désaccord.
Ouais.
tension, des trucs comme ça. Ben en fait, ça m'a rassurée parce que j'étais, ben en fait, là on n'était pas d'accord, ou là on était de mauvaise humeur, on voulait pas la même chose, on s'est saoulés mutuellement, après on s'est un peu foutu la paix, puis on s'est expliqué, et ça a été, et personne n'a rompu, et tout va bien. Enfin, donc je pense que c'est quand même beaucoup plus facile que ce que j'avais cru.
Et t'as éprouvé ce que je disais tout à l'heure, ces zones de confrontation, qui des fois en fait ne sont pas le signe de la fin, mais au contraire, on apprend à se connaître aussi dans d'autres configurations, et c'est dans ces moments-là que tu vois si t'aimes vraiment la personne. C'est vrai, bah quand c'est tendu, quand c'est pas... Parce qu'un truc que moi, ça m'apprend, que je sais toujours pas faire, c'est de lâcher le contrôle. C'est vachement facile, en fait, d'être avec soi. Non, c'est pas vraiment facile, mais t'as plus l'impression d'être en contrôle, ne serait-ce que moi, je sais que je rumine beaucoup, donc je suis assez anxieux aussi. C'est une forme de contrôle, de tout le temps avoir des pensées, les mêmes pensées qui reviennent en boucle, etc. C'est une forme de contrôle complètement inefficace, mais c'est une forme de contrôle que je peux pas avoir sur les autres. Et être avec quelqu'un, c'est apprendre à lâcher ça, et putain...
Et se dire qu'en fait, le conflit, c'est pas grave, en fait. Enfin, je veux dire, enfin, la relation que j'avais de 4 ans et demi, où là, le conflit était grave parce qu'il était quotidien et très violent, etc. Mais le conflit n'est pas grave parce que c'est pas toi versus la personne en face de toi. C'est toi et la personne en face de toi pour trouver une solution. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est très juste, il y a des gens qui restent éternellement en conflit parce que c'est le moyen qu'ils ont d'être en relation. C'est un moyen de ne pas briser la communication, de ne pas briser la relation, etc. Donc, il faut faire attention à ça, parce que ça peut être un schéma extrêmement douloureux et toxique. Mais ça se confirme. Enfin, on voit, on a tous des modèles de parents qui sont tout le temps en train de s'engueuler. Tu te dis, mais pourquoi ils restent ensemble? Parce qu'en fait, c'est mieux que de rompre la communication et la relation pour eux, en tout cas, dans le modèle qu'ils ont connu. Et je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, Meredith. J'ai pas besoin, donc, tu as éprouvé les relations dites ouvertes. On va prendre les mots, même si on les aime pas. Et tu as dit, j'ai pas besoin de ça pour prouver quoi que ce soit, ni que je suis féministe. Et moi, j'ai voulu me. En fait, ça merdait tellement dans mes relations conventionnelles, on va dire en tout cas exclusives. Je finissais toujours par tromper, toujours le même schéma. Et c'était contre mes valeurs. J'arrivais pas à comprendre pourquoi je faisais ça. Je voulais pas être cette personne-là, mais je le faisais. Et c'est trop facile de dire, je veux pas le faire, mais je le fais. De me flageller. Tu vas dire, de toute façon, je suis un connard, je serai jamais aimé. Non, en fait, j'ai voulu sortir de ça. Et donc, j'ai fait des relations ouvertes et j'ai fait aussi ce qu'on appelle du polyamour. Et au début, je me disais, ça marche, c'est plutôt cool, mais il y avait quand même des petites tensions. J'étais pas très à l'aise. Jusqu'à ce que dans le polyamour, on réussisse. En fait, moi, je faisais ça pour, en gros, l'adultère est permis. Ce que je jugeais de l'adultère dans des relations exclusives, dans des relations ouvertes et polyamoureuses, c'est permis, en fait. Autorise l'autre à le faire. Donc, techniquement, elle peut pas me blesser parce que je l'ai autorisé. Sauf que même dans ces relations-là, c'est des accords de confiance et il y a des limites. Et la personne avec qui j'étais a brisé les limites qu'on avait mises dans un cadre beaucoup plus ouvert. C'est vrai que le cadre exclusif. Et j'ai quand même été trahi au plus haut point. J'ai vraiment vécu un adultère en polyamour. Ce qui, pour moi, donc, est très dur. Ça l'est encore. Mais ça m'a permis de me rendre compte que j'essayais d'échapper à ce que je voulais. C'est-à-dire un couple exclusif où il fallait que j'apprenne à faire confiance et à accepter la trahison potentiel parce que je peux pas contrôler l'autre et que même si j'essayais d'avoir d'autres types d'alternatives de relations, je pouvais me faire démolir la gueule aussi et que c'était pas un moyen de régler quoi que ce soit sur moi. Ma question c'était, est-ce que vous avez connu des types de relations autres que exclusives du coup et quelles ont été vos expériences sur ça?
Moi du coup, la dernière relation, enfin en fait en gros, j'ai rencontré quelqu'un il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi, sur Tinder.
C'est le sponsor.
SVP. Putain, ce serait cool, ça. Et donc, on s'est matché, on s'est beaucoup parlé. Enfin, j'ai tout de suite senti que c'est quelqu'un avec qui j'allais accrocher. Et puis finalement, on a eu un date qui s'est hyper bien passé aussi. Et à partir de là, en fait, on n'a plus jamais arrêté de se parler et de se voir. Mais on n'était pas en couple parce que moi, je sortais de cette fameuse relation qui m'avait roulé dessus, la dernière en date. Donc mon ex, et moi je voulais pas me mettre en couple, je voulais pas encore me dire putain je vais encore vivre ça, je vais encore me retrouver, enfin ça me fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure, que t'as l'impression que quand c'est fini on t'a tout enlevé. Moi après cette relation là j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait jeté dans un coin et qu'on m'avait enlevé toute ma peau et qu'on me laissait crever là quoi, vraiment c'était vraiment ma sensation. Et j'avais plus envie de ça, je me suis dit je peux pas encore une fois vivre ça, je vais pas y arriver quoi. Donc forcément, j'avais hyper peur et donc j'avais mis un mur, je me laissais pas approcher émotionnellement, mais tout en étant quand même hyper souvent avec elle, on se parlait tout le temps, on se voyait tout le temps, on vivait une forme de relation exclusive en soi dans la pratique. Bon, en plus, il y avait le Covid, donc forcément, c'est pas le moment où tu rencontres le plus de gens. Et après quelques mois de relations comme ça, j'ai continué. Je me suis remise sur les réseaux, enfin les tapis de rencontre. J'ai rencontré quelqu'un. On s'est un peu fréquenté pendant l'été et tout. Et puis, moi, je voyais qu'avec cette personne-là, ça n'allait pas aller non plus parce que je sentais qu'elle allait... qu'il y avait de nouveaux trucs passionnels, qu'il y avait de nouveaux trucs où je me suis dit « Ah, putain, non, je reconnais beaucoup trop de trucs qui ne me vont pas, donc je vais m'en aller. » Et j'étais fière de moi parce que c'était la première fois que je m'en allais aussi vite, en ayant quand même le seum, quoi, parce que voilà. Mais je voulais me protéger, en fait, tout le temps. Je voulais me protéger de tout. Et dès que je voyais que je baissais mes barrières, en fait, je suis partie. Et finalement, avec la personne avec qui je relationnais avant, on est devenus amis. Mais ça fait toujours rire beaucoup les autres. Et cette personne-là aussi a commencé à voir d'autres gens. Mais ça me faisait rien. Donc finalement, on est quand même restés potes jusqu'au moment où elle a commencé à vraiment relationner avec une seule personne pour qui elle avait des sentiments et avec qui elle s'était plus ou moins mise en couple. Et là, en fait, ça m'est revenu en pleine gueule où je me suis dit, mais putain, en fait, non, ça me va pas du tout. Je le vis super mal, j'ai l'impression d'être en pleine rupture, c'est horrible, machin. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, mais en fait, quels sont mes sentiments par rapport à cette personne-là, quoi. Et finalement, je lui ai écrit, une sorte de lettre et, que je lui ai envoyée, et finalement, elle s'y attendait pas du tout, parce que pour elle, vraiment, on était potes, quoi. Tellement j'avais insisté là-dessus. Et on en a beaucoup parlé, on a vraiment mis les choses à plat, on s'est vraiment demandé si on était sûres toutes les deux et tout, et finalement, on est en couple depuis. Donc,
bravo.
Merci. Et en fait, c'est une personne avec qui j'ai vraiment énormément appris à communiquer. Et ça, c'est aussi un truc que je ne savais pas faire. Parler de mes émotions, communiquer. J'ai appris et j'apprends toujours plein de choses avec elle. Et elle n'est pas du tout... je ne vis pas du tout ce que j'ai déjà vécu avant, ce qui est parfois très perturbant, hein, parce que c'est pas ce que je connais
à zéro, quoi.
Mais tu sors de ta zone de confort relationnel.
Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu cette passion dès le début. Et du coup, moi, je pense aussi que comme il n'y avait pas eu la passion dès le début, je ne l'associais pas à de l'amour, parce que pour moi, l'amour sans passion, je le disais avant, hein, l'amour sans passion, ça n'existe pas.
Ouais. Et c'est marrant de voir que t'as lâché. Tes patterns dysfonctionnels en même temps que t'as lâché des croyances où tu pensais que c'était ça l'amour, tu vois. Il y a peut-être un moment où il faut sortir et tenter des trucs. Il y avait ce truc au début où j'étais là, je vais tenter quelque chose de complètement nouveau, en fait, polyamour, on va tenter tout, et le fait de devoir réinventer, je me suis laissé complètement surprendre parce que c'était vraiment l'amour, parce que j'étais jamais allé dans cette zone là avant, quoi.
Oui. Mais ce qui est logique, parce que quand au bout d'un moment tu affirmes que t'en as marre d'être tout le temps dans tes patterns, il y a un moment, il faut que tu essayes autre chose parce que bon, tu ne vas pas recommencer ad vitam aeternam et payer encore 14 ans de psy et refaire la même chose, quoi. C'est un peu débile.
Ouais, il faut arrêter de creuser le même sillon, quoi.
Voilà. Même si c'est celui que tu associes par réflexe à ça.
Je voulais juste rebondir sur un truc, c'est que moi, dans les périodes où j'étais célibataire, c'est-à-dire où je fréquentais personne, je me disais toujours qu'en théorie, j'aimerais bien que ma prochaine relation soit un truc ouvert, machin et tout. Et puis, j'avais des demi-relations, donc non officielles et tout, qui étaient ouvertes parce que pas officielles et tout. Et ça m'allait parce que je m'adaptais un peu à la personne en face, mais j'étais toujours un peu en mode genre, j'aime pas trop. Et je pense que c'était à la fois, donc comme je disais tout à l'heure, pour me prouver un truc, mais aussi à la fois pour au final ne pas vraiment être rejetée, quoi. Parce que si je restais ouverte et dispo et ouverte à l'ouverture et tout, je préférais avoir un truc bancal que n'avoir rien du tout. Ce qui, en fait, est complètement pourri. Et je me suis rendu compte aussi, avec le recul, que les meilleures périodes que j'ai vécues dans ces moments-là, c'était les moments de fin, en fait, ouais, où je fréquentais personne. Genre, c'était très dur pendant quelques semaines. Et après, je kiffais personne, j'avais des crushs sur personne. Et j'étais juste en relation avec moi-même, mais à 100%. Et ça, c'était mes meilleurs moments, quoi. Mais ils étaient rares parce qu'après, tout d'un coup, j'étais... Oh.
Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'entre-deux, parce que moi, je l'ai vécu a posteriori, je l'ai analysé comme ça. Je pensais que j'étais en relation libre parce que c'était vraiment... Ou polyamour, parce que je pensais vraiment que c'était moi. Tu vois, je me disais, mais je suis fait pour aller avec plusieurs personnes. Je suis quelqu'un de curieux dans la vie. Même dans mes journées, elles ne sont jamais pareilles. Je fais plein de trucs et tout. Je me dis, je vais faire pareil en amour. Et vraiment, vraiment, j'étais convaincu. Mais en fait, à faire cette espèce de demi-mesure... je sais que j'ai fait souffrir des gens parce que du coup, au bout d'un moment, mais c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, est-ce que vraiment on acte ce flou-là avec des règles? Et moi, j'étais là, non, les règles, c'est pas bien, faut rester dans un truc ouvert et tout. Et le fait d'avoir vécu la douleur que c'est que quelqu'un qui profite d'un espèce de trou juridique dans votre relation non définie, je me suis dit, enfin, moi, je sais que je suis très dur et peut-être j'en reviendrai, mais je suis très dur avec ces modes de relation-là parce que moi, ça m'a fait de la peine. Je me dis, c'est encore une zone de flou pour pas se poser les bonnes questions. Et je sais que je suis catégorique, ce qui est assez rare, mais parce que c'est émotionnel chez moi, là, pour l'instant, c'est aussi pour me protéger. Pour l'instant, donc maintenant, j'ai besoin qu'on définisse les choses.
Un gros déclic que j'ai eu, genre vers 26, 27 et tout, c'est que tranquillité ne veut pas dire ennui.
Oui.
Et que donc, relation tranquille ne veut pas dire ennui. C'est pas parce que t'es dans... On dirait que je suis en train de faire l'apologie de la relation monogame. C'est genre, oh, la relation monogame. Mais genre, c'est pas parce que t'as une seule partenaire romantique et sexuelle que c'est tous les jours la même chose. Parce que vous avez chacun, chacune, une vie intérieure, une vie extérieure et tout, dissociée de l'autre, et que du coup, les journées ne sont pas pareilles, en fait. Enfin, une relation aussi, ça se travaille, et c'est pas... Ça se travaille en mode, genre, c'est un labeur et c'est dur, mais en fait, genre, c'est à vous deux d'essayer de créer des changements, des trucs comme ça, et des trucs fun, et des, enfin, c'est des petits trucs à la con, enfin, genre dire, ok, ben en fait, toute cette semaine-ci, on s'est beaucoup vu, mais avec nos potes, ben viens, la semaine prochaine, on se fait un soir à deux, et on fait vraiment un date, et ça va être spécial, tu vois, enfin, ouais. des trucs comme ça, quoi. C'est des petits trucs.
Et je pense que sur la définition des termes, c'est hyper important de revenir sur... Bah, les clichés qu'on avait sur des termes. Par exemple, moi aussi, j'ai fait la différence entre compromis et sacrifice. Il y a un truc où c'est OK de faire un compromis avec quelqu'un parce que tu l'acceptes. Il y a quelque chose et c'est OK. Si on se rencontre au milieu, moi, ça me va. Mais avant, dès que je me disais, non, si je lâche, je sais pas, ma liberté ou le fait que je veux partager mon corps et tout, bah, c'est un sacrifice et tout. Et en fait, non. Évidemment, tu vois, dans un couple exclusif, monogame, bah, je vais coucher qu'avec une seule personne, mais il y a ce truc de... En fait, ça me va au fond de moi, j'ai envie de ça, et je renonce par moments. Il y a des femmes que je peux trouver très belles ou des expériences où je me dis, bon, bah oui, je n'irai pas dedans, mais c'est pas un sacrifice, c'est pas une déchirure, c'est un choix. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait arrêter d'être un gamin, quoi. Je veux tout en même temps. Non, en fait, tu pourras pas tout avoir, ça va juste faire, tu sais, comme tu mélanges toutes les couleurs, tu vas te retrouver avec du marron merdique, quoi.
Non, mais ce qui est trop bien, par contre, c'est que du coup, tu peux vraiment, si je vais dire le truc, et après je vais dire titre, je le sais, après tu peux explorer l'autre personne en profondeur, titre, mais c'est parce que, tu vois, enfin, j'ai l'impression que les fois où j'étais célibataire, mais que je fréquentais un peu, machin et tout, c'est tout était très superficiel, parce que j'allais jamais en profondeur dans les gens, parce que... J'avais pas le temps, en fait, enfin, et pas spécialement envie et tout. Et du coup, c'était, vu que c'était 99% de projection, mais c'était ce que moi je m'étais imaginé des personnes et
92
tout.
Pour les Français.
99.
Pardon.
J'ai 99.
Ah, j'ai
ben voilà,
super. Ah, voilà, je suis n'importe quoi.
Enfin, tu vois, alors que là, tu peux vraiment explorer l'autre personne en profondeur. Et c'est pas juste genre, ah, c'est quoi ton passé, etc. C'est en mode genre. Mais des trucs hyper random, des fois j'apprends des trucs méga aléatoires sur ma copine, tout comme je pourrais apprendre des trucs encore sur Asma après 15 ans d'amitié. Enfin,
ouais.
Et c'est trop bien. Et aussi, ce qui est trop bien, c'est de te découvrir toi grâce à ce que l'autre fait ressortir chez toi. Des fois, l'autre te parle d'un truc qu'il ou elle kiffe et t'es là en mode genre « Ah ouais, ah, mais j'avais jamais pensé à ça » ou une passion ou un truc comme ça où genre, la personne te sort un peu de ta zone de confort et tout. Et enfin, moi, ce que je trouve de trop beau dans une relation amoureuse, c'est que c'est une sorte de mélange de plein de sortes de relations. Genre, par exemple, maintenant, avec ma copine, voilà, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Et il n'y a plus cette espèce de petite timidité du début, de moi, genre, est-ce que je suis assez jolie, là, maintenant? Enfin, on se fait encore jolie, on se pimpe encore quand on a des dates et tout, machin. Enfin, c'est cool. Mais genre, par exemple, elle m'a vue après mon opération de l'appendicite, où j'étais en mode, enfin, au bout du rôle, c'est tout. Et j'étais pas en mode, genre, je ne veux pas qu'elle me voie. Enfin, des trucs comme ça. Et par exemple, le matin, quand je pète des câbles et que je commence à inventer des chansons en dansant de manière vraiment stupide dans la salle de bain, eh ben, elle me rejoint et elle le fait avec moi et on parle avec des voix absurdes et des trucs comme ça et ça se fait tout seul. Et genre, j'aime trop me dire qu'en fait, l'amour romantique, c'est pas ce truc mis sur un piédestal et qui est pur et où tu dois être la meilleure version de toi-même et tu dois être la princesse ou princesse charmante ou cavalier, chevalier, je ne sais pas, tu vois, et être la meilleure version, trop belle, trop lisse et tout. En fait, c'est genre tu es une personne entière, profonde, avec des couches, et l'autre personne se dit oh, je veux tout voir.
Et il y a un truc qu'une amie m'a dit, alors moi je n'ai pas ce truc-là dans la tête, mais j'ai adoré le découvrir chez elle. Elle m'a dit, moi je vois l'autre personne comme une... Moi je suis une petite boîte, elle c'est une petite boîte, et ce qui nous relie c'est des liens. Et plus tu multiplies des liens de types différents, plus votre relation elle est forte. Et dans un couple, c'est ça. Oui, vous êtes amoureux, mais vous êtes aussi amant, mais vous êtes aussi ami, mais vous êtes aussi des conneuses, je sais pas mais quoi. Et plus tu rajoutes des expériences et des petits liens, plus en fait la gaine va être forte entre vous. Et j'ai adoré cette conception-là.
Mmh. C'est un truc que je viens de réaliser là maintenant pour moi. Je pense qu'une relation libre, c'est une relation où toi, tu es libre et tu es libre dans le couple. Et pour moi, une relation libre, c'est une question aussi de lâcher prise, où tu arrives à te dire, à faire confiance à l'autre, en fait. Même en monogamie, parce que je pense que des fois aussi, on a du mal à faire confiance à l'autre à 100% et que c'est peut-être là qu'on se sent pas très libre, tu vois.
Je pense que c'est quand tu as été blessé par d'autres relations, des trucs comme ça, tu vois.
Ouais, mais on arrive à la trentaine, on a tous été blessés. Genre, oui, si on ça, prend ça comme postulat, on est fini, quoi.
Ouais, oui.
Non, mais moi, j'avais ce truc-là aussi. Et des fois, quand je relationne et que la personne en face dit « Ouais, mais ma dernière rupture », je fais « Ok, mais taf, en fait. » Désolé, ça peut paraître froid, mais en vrai, taf. Et moi, je découvre aussi des trucs, des fois, qui me terrifient sur moi, de me dire « Mais what, t'as 31 ans de réagir comme ça, mais ça va pas à la tête. Ça... Je dois traîner ça depuis vraiment 30 ans. Non, mais vraiment, 40 ans. Je me dis « Bah, faut que je bosse aussi. » Et le fait, moi, ce qui a changé, c'est d'accepter de mettre ça au milieu et de dire regarde ça va pas chez moi et je vais le bosser, est-ce que tu veux bien être encore là quand je reviens. Et c'est, tu vois, on parlait de la meilleure version de soi-même, je pense que la meilleure version de soi-même c'est aussi accepter que des fois on est une merde, quoi. Et c'est ça la meilleure version de soi-même, c'est la version la plus complète, en tout cas moi c'est ce que j'essaye d'accepter chez moi.
Je pense aussi qu'un truc que je m'étais dit pendant les années qui viennent de passer, surtout quand j'ai commencé à aller chez une psy et tout, j'étais en mode genre ouais, faut que je bosse sur moi-même et tout, et quand j'aurai bossé sur moi-même peut-être que je serai prête sur une relation, mais en fait tu vas bosser toute ta vie sur toi-même.
Oui, en fait.
Et qu'en fait c'est compatible avec une relation amoureuse. Et
voilà. Mais c'est hyper important de le dire.
Ouais.
Et je voulais juste conclure sur ça. Enfin, vous avez dit, ça se travaille. Un couple, ça se travaille. Et on le voit un peu comme labeur et tout. En fait, non, ça devrait être simple et tout. En vrai, tout se bosse, en fait. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Même soi, ça se travaille. Enfin bref, tout se travaille. Donc, faut pas le voir comme un truc négatif. Et c'est jamais fini. Et on revient sur ce qu'on disait au tout début. Dès lors qu'on dit « j'ai compris », c'est là où ça commence la merde. Et je pense que c'est valable pour soi, pour ses patterns et tout ça. Mais c'est aussi valable pour l'autre. Dès qu'on commence à dire de l'autre « j'ai compris qui il est ou qui elle est » ou « j'ai compris notre relation », ouais.
Non, parce que l'autre personne, tout comme toi, tu vas la découvrir.
Bah parce qu'elle évolue, elle évolue, donc forcément. Ouais. Tu n'es pas un produit fini.
Non,
et c'est le propre du vivant. Vous regardez ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc,
voilà.
Du coup,
forcément.
Félicitez-vous que ça évolue. Bah, merci beaucoup.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pour terminer cet épisode, est-ce que vous auriez un mot pour qualifier votre rapport au couple aujourd'hui?
Oui.
Niais.
Non.
Niais.
Non. Enfin, niais, oui, bien sûr. Mais équipe. Je la vois vraiment comme ma partenaire dans la vie. Enfin, partenaire coéquipière. J'ai envie de continuer à faire mes trucs et à être moi-même, etc. Je veux qu'elle, elle continue à faire ses trucs et à être elle-même, mais j'aime trop le fait qu'on soit en train de construire des choses ensemble et qu'on s'épaule et tout, et que c'est parfois pour des tout petits trucs, genre il y a l'une qui est de mauvais poil pour un truc, et puis l'autre là, genre ok, mais vas-y, tu veux qu'on en parle et tout, et puis on en parle, et puis l'autre est moins de mauvais poil parce que l'autre lui a montré une perspective, ou juste... Enfin voilà, c'est comme genre on a fait une collab podcast avec elle, enfin tu vois, des trucs comme ça, enfin c'est ouais, c'est équipe, quoi.
Moi, ma meuf, elle est dans Baleine sous caillou. En plus, équipe, tu crèves.
Népotisme.
Une équipe dans une équipe, c'est
ça, c'est beau.
Et toi, Asma?
Moi, le premier mot qui m'est venu, c'est ajustement.
Ok.
Parce que par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, pour moi, c'est pas le couple, c'est pas quelque chose de figé, et c'est un truc sur lequel il faut toujours bosser et s'ajuster et communiquer et parce qu'il y a aussi tellement d'événements en dehors du couple. Enfin, le couple est toujours aussi genre influencé par ce qui se passe autour et des choses qui s'injectent à l'intérieur et tout. Et donc, il faut pouvoir s'ajuster.
Je crois que c'est une vraie capacité à développer, la capacité à ajuster. C'est très juste. Et moi, je dirais aimer. Donc, du coup, hyper simple. Mais on a parlé de ça tout à l'heure et je pense qu'il faut aussi apprendre à être aimé. Et apprendre à aimer l'autre. Enfin, il y a tellement, dans un mot, il y a tellement de configurations, même à deux. Tu sais, c'est comme si tu avais un espèce de code secret, mais juste à deux chiffres. Mais en vrai, il y a déjà tellement de combinaisons avec ça. Et la clé, c'est d'aimer. Et ça a l'air con, mais c'est. Oui, tu veux rebondir?
Mais ouais, non, mais parce que tu parlais d'aimer, etc. Et de s'ajuster. Enfin, on fait un mix entre aimer, s'ajuster et tout. Et en fait, c'est. J'en discutais hier dans la cuisine avec Arthur. Et j'ai dit, j'ai l'impression qu'elle me voit et que je la vois, tu vois. Et en fait, je pense que c'est aussi ça, c'est par exemple être prêt à s'ajuster de manière quotidienne, rien que pour des trucs, voilà, t'as un imprévu ou un truc comme ça, ou alors ce dont ton partenaire avait besoin hier ne sera pas la même chose aujourd'hui, juste parce qu'il y a un changement mineur, tu vois, juste parce que sa journée était mauvaise et qu'en fait, quand cette personne passe une mauvaise journée, il faut qu'elle soit seule. Enfin, tous des trucs comme ça.
Ouais,
et c'est ça, et parce que t'aimes l'autre et parce que tu vois l'autre le plus possible dans son entièreté, ben tu t'adaptes, en fait, tu t'ajustes.
Et Flo, tu disais un truc qui m'a vraiment hyper fort interpellée, c'est arriver à être aimé. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai dû apprendre à faire. Punaise, genre... Je me rends compte, en fait, par rapport à mes ex et tout, j'avais un peu ce côté genre « Waouh, je suis l'élu, cette personne m'aime, cette personne, elle est vraiment beaucoup trop cool, mais elle m'a quand même choisi moi. » Et je trouvais ça incroyable d'être aimée par cette personne-là et je me sentais trop chanceuse. Et donc, à mon avis, j'ai accepté des choses que je n'aurais pas acceptées d'une autre personne, enfin d'autres personnes.
Ouais, donc, ouais. On l'oublie aussi, on pense qu'à donner et tout ça, faut aussi apprendre à recevoir. Voilà, j'apprends aussi ça en ce moment. Et c'est intéressant juste ce que vous disiez sur le fait de quand on se voit, c'est nouveau. Moi, j'apprends à cultiver ce truc de la page blanche, c'est que la personne que je vais voir n'est pas la personne que j'ai laissée il y a une heure ou il y a deux jours ou quoi. Et on revient toujours sur ce truc de laisser tomber le « j'ai compris », quoi. Super, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait cet épisode.
Merci. Enfin, j'ai envie de dire putain.
et puis voilà, on refera d'autres collabs si vous êtes contente.
Quand on viendra à Paris, tiens.
Oui, venez.
On va faire l'inverse.
Voilà,
on
fera.
Boire des mimosas à Paris à 10 euros le mimosa en terrasse.
Oui. On les fera nous-mêmes.
Aime Paris, aime.
J'aime Paris. Mais est-ce que Paris m'aime?
Bah, tiens, bah voilà, on retombe dessus, ok. Apprends à nous aimer, Paris, ok. Merci beaucoup. Et puis, chers applaudisseurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur.
Nous aussi, on vous applaudit. Bisous.
Je voulais placer.
Oui.
Oh, il n'y a pas de bêtisier pour cet épisode. On a rigolé, mais pas suffisamment pour que je le compile dans un joyeux bêtisier. C'est pas grave. Je vous invite quand même à mettre 5 étoiles à Mise à Mal si vous avez apprécié l'épisode et que vous voulez soutenir l'émission. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify maintenant. Donc clic, 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 allez mettre toutes ces étoiles. C'est un mélange de rappeur et de petite vieille comme moi. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et je vous fais des bisous.